Féroé Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 13 juin 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia. Pour commencer les titres, la RDC accuse le Rwanda et le M23 de nouvelles attaques dans l'Est, où de violents combats se poursuivaient hier soir. Au Burkina Faso, au moins 6 personnes ont été tuées samedi dans le Nord, lors de plusieurs attaques attribuées à des djihadistes. Ukraine, Moscou frappe dans l'Ouest, la bataille redouble à Severodonetsk. Nucléaire iranien, l'Agence internationale de l'énergie atomique exhorte Téhéran au dialogue immédiat pour éviter la crise. Ici aux États-Unis, accord à minima entre républicains et démocrates sur les armes à feu. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'armée congolaise a accusé dimanche le Rwanda d'avoir soutenu les rebelles du M23 pour mener de nouvelles attaques dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo, où de violents combats se poursuivaient en soirée. Mohamed Humfa.
L'attaque a visé la ville de Bounagana, ex-fief de ce mouvement rebelle, repris par l'armée congolaise en 2013 dans la province du Nord Kivu, à la frontière avec l'Ouganda. Une province placée en état de siège par les autorités de Kinshasa. Selon un officier de l'armée qui a requis l'anonymat, les soldats congolais étaient en train de repousser les rebelles dimanche après-midi et les combats se poursuivaient sur la route de Bounagana. Selon un responsable d'une association locale de la société civile, de nombreux habitants ont fui le centre de la ville, important point de passage pour les marchandises entre le Congo et l'Ouganda qui étaient encerclés par les rebelles. Rébellion à dominante Tutsi, vaincue en 2013 par Kinshasa, le M23 a repris les armes fin 2021 en accusant les autorités congolaises de ne pas avoir respecté les accords de paix signés au Kenya entre les deux parties belligérantes.
Le Rwanda demande soutenir le M23, mais dans son communiqué, l'armée congolaise a accusé les terroristes du M23 soutenus selon elle par l'artillerie et les militaires de l'armée rwandaise d'avoir attaqué ses positions près de Bounagana. L'objectif poursuivi par le Rwanda, a-t-elle ajouté, est d'occuper Bounagana pour non seulement asphyxier la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, mais aussi faire pression sur le gouvernement congolais. C'est ce qu'a affirmé dans le communiqué le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire de la province. Les assaillants ont été mis en déroute après avoir perdu plusieurs des leurs, a-t-il assuré. Un soldat congolais a également été tué. Pour sa part, le porte-parole du M23, Willy Ngoma, a confirmé à l'AFP que de très violents combats continuaient tout près de la ville, accusant la force de l'ONU, la MONUSCO, d'avoir pilonné les positions rebelles à 3 reprises. Au Burkina Faso, des sources militaires et locales ont annoncé hier qu'au moins 6 personnes ont été tuées samedi dans le Nord, dans plusieurs attaques attribuées à des djihadistes. Auparavant, la brigade territoriale de gendarmerie de Seitenga avait été jeudi la cible d'une attaque djihadiste coûtant la vie à 11 gendarmes Lionel Gaïma.
Une attaque terroriste a coûté la vie à 6 civils à Alga, une localité située dans la province du Bam, a indiqué une source sécuritaire. Les terroristes venus en grand nombre ont attaqué le village de Bulunga et le site d'orpaillage de Alga, séparé d'un kilomètre, a expliqué un habitant confirmant le même bilan. Selon cette même source, les habitants quittaient le village dimanche pour se diriger vers la grande ville de Kaya, à 100 kilomètres. Le Burkina Faso, en particulier le Nord et l'Est, est la cible d'attaques djihadistes depuis 2015. Perpétrées par des mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique, ces attaques ont fait plus de 2000 morts et 1,9 million déplacés. Le nouvel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, a fait de la question sécuritaire sa priorité. Depuis la relative accalmie lors de sa prise de pouvoir, M. Damiba fait face à une recrudescence d'attaques de djihadistes présumées causant la mort de quelques 200 civils et militaires.
Et au Mali voisin, selon un nouveau bilan fourni hier par des sources policières et administratives, ce sont 8 personnes, 2 douaniers et 6 civils, qui ont été tués samedi dans le sud-est du Mali, lors d'une attaque lancée par des hommes armés non identifiés contre un poste des douanes dans la zone de Koutiala, près de la frontière avec le Burkina Faso. Les assaillants, dans leur retrait, ont emporté un véhicule de la douane dans lequel se trouvait un agent de la douane et 6 pistolets mitrailleurs, dit-on, sans préciser le sort de ce douanier. À la veille des premiers départs prévus, la justice britannique examine ce lundi des recours de dernière minute contre le projet du gouvernement d'envoyer au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Un premier vol transportant une trentaine d'entre eux est prévu mardi, 4 jours après l'échec d'un recours d'association de défense des réfugiés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Moscou a affirmé hier avoir détruit un grand entrepôt d'armes fourni par les Occidentaux dans l'ouest de l'Ukraine, alors que les combats s'intensifient dans l'est, devenu, selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne, une terre couverte de sang. La situation à Severodonetsk est extrêmement difficile, a reconnu le gouverneur ukrainien de la région de Lugansk, qui craint que Moscou n'y engage dès ce lundi ou mardi toutes ses réserves pour prendre cette ville stratégique du Donbass dans l'est du pays. La première réunion ministérielle de l'OMC depuis plus de 4 ans a démarré hier à Genève avec l'espoir fragile que les 164 États membres se mettent d'accord sur la pêche, les brevets des vaccins anti-Covid ou une stratégie pour éviter une crise alimentaire mondiale que fait planer sur le monde entier l'invasion par la Russie de l'Ukraine, dont les terres fertiles nourrissent traditionnellement des centaines de millions de personnes sur la planète, mais les divergences restent grandes. L'Agence internationale de l'énergie atomique a exhorté dimanche l'Iran à renouer immédiatement le dialogue pour éviter une crise majeure qui rendrait extrêmement plus compliqués les efforts visant à sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Abdulrahman Dia.
Téhéran avait annoncé la semaine dernière sa décision de retirer 27 caméras qui permettaient aux inspecteurs internationaux de surveiller ses activités nucléaires en riposte à une résolution occidentale, dénonçant déjà son manque de coopération avec l'agence de l'ONU. À l'instant où je vous parle, ça y est, ces caméras ont été retirées, ainsi que d'autres systèmes de surveillance en ligne que nous avions, a déclaré le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, dans un entretien diffusé par la chaîne américaine CNN. « C'est très très grave », a-t-il réaffirmé. Il a appelé les dirigeants iraniens à revenir immédiatement à la table. Raphaël Grossi a expliqué qu'en l'absence de ces caméras, l'agence ne sera bientôt plus en mesure de dire si le programme nucléaire iranien demeure pacifique. Les États-Unis avaient quitté l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, qui le jugeait insuffisant et avait rétabli les sanctions économiques contre Téhéran.
Ici aux États-Unis, 20 sénateurs républicains et démocrates ont annoncé dimanche un accord sur plusieurs dispositions afin de mieux encadrer l'utilisation des armes à feu dans le pays. Des mesures à minima après de récentes tueries qui ont choqué les États-Unis. Précision de John Lennon.
Ces mesures, susceptibles d'obtenir la majorité qualifiée au Sénat, incluent une incitation aux États à retirer les armes aux personnes jugées dangereuses, ainsi que d'autres dispositions visant la santé mentale et la sécurité dans les écoles, mais n'incluent pas l'essentiel des réformes réclamées par les démocrates et Joe Biden. Le président américain a cependant immédiatement salué des avancées insuffisantes mais importantes, estimant dans un communiqué qu'il s'agirait du texte le plus significatif sur le contrôle des armes à feu à être voté au Congrès depuis des décennies. La présence des 10 sénateurs républicains parmi les signataires du communiqué annonçant ce compromis suggère qu'un tel texte a de réelles chances de passer au Sénat si l'ensemble des 50 élus démocrates y sont favorables. Une majorité qualifiée de 60 voix est nécessaire pour qu'un tel projet de loi soit adopté.
Une pièce de théâtre sur la banque Lehman Brothers et des comédies musicales sur le roi de la pop, Michael Jackson, ou sur un auteur noir et gay ont triomphé dimanche soir aux Tony Awards, les récompenses de Broadway à New York. Souvent comparés aux Oscars du théâtre, ces 75e Tony Awards, diffusés sur CBS, ont conclu une saison de renouveau pour Broadway, poumon culturel de New York, après 18 mois de fermeture entre le printemps 2020 et l'automne 2021, à cause de la pandémie de COVID-19. La Minute Éco, Rosine Moulet-Zéro.
La Somalie a accepté de lever l'interdiction d'acheminer par avion du CAT depuis le Kenya, qui était en vigueur depuis plus de 2 ans. Le Kenya a exporté vers la Somalie pour une valeur de plus de 110 millions de dollars, soit 5% de ses exportations totales vers les pays africains en 2021, selon les données gouvernementales publiées en mai. Les importations de la Somalie ont représenté 905 000 dollars l'année dernière. Plusieurs institutions financières africaines ont annoncé le lancement d'une alliance pour protéger le capital naturel du continent. Ces financiers tentent de limiter le recul de la biodiversité sur le continent, où plus de 60% du PIB dépend de la nature. Pour atteindre cet objectif, l'alliance compte influencer les normes mondiales de gestion des risques liés à la nature et soutenir les approches qui maximisent les opportunités pour une croissance durable. Les prix à la consommation ont repris leur escalade en mai aux États-Unis, battant un nouveau record en 40 ans. Le département du travail indique que les prix à la consommation ont bondi de 8,6% sur un an, contre 8,3% le mois dernier. Les difficultés d'approvisionnement ont fait grimper les prix et la guerre en Ukraine a accentué le phénomène, faisant flamber les prix du carburant et de l'alimentation.
Merci Rosine. Les sports à présent avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football au programme, la course à la CAN 2023 avec les derniers matchs de la deuxième journée aujourd'hui.
Oui, et dans le groupe A, le Nigeria et la Guinée-Bissau, tous en déplacement, respectivement à Sao Tomé-Principe et au Sierra Leone, vont tenter d'enchaîner une seconde victoire. Pareil pour le Maroc dans la poule K qui se rend au Libéria. Pour rappel, 48 équipes reparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet 2023.
Qualification également pour la CAN des moins de 17 ans Algérie 2023.
Tout à fait. Et c'est la zone UEFA B qui a lancé les hostilités à Cape Coast au Ghana. Et une entrée en lice ratée pour le pays hôte dans le groupe A. Battu par le Nigeria 4-2. Les jeunes Ghanéens ont l'obligation d'arracher la victoire lors de leur deuxième sortie. Dans le groupe B, c'est le Bénin et le Burkina Faso qui partagent la première place, bien évidemment après leur succès respectif 3-2 contre la Côte d'Ivoire et 2-1 face au Niger. La compétition fait relâche aujourd'hui pour reprendre demain avec la deuxième journée de la phase de poule.
Football toujours, Coton FC remporte le championnat au Bénin.
Les Cotonculteurs, vainqueurs 2-1 de Béké FC de Bébéréké, s'offrent leur premier titre de champion au terme de la 23e et avant-dernière journée de la Super League Pro. Avec 49 points, le club de Ouida dévance de 5 points au classement les Buffs du Borgou accrochés 2-2 à l'AS Cotonou.
La suite, Élisée, c'est de l'athlétisme avec les championnats d'Afrique à Maurice.
Oui, qui se sont achevés hier avec le sacre de la Nigérienne Aminatou Seyni sur 200 mètres. Chez les hommes, le 200 mètres est revenu au Botswanais Leslie Tebogo. Pour cette dernière journée, le Sénégal a réalisé le doublé au triple saut avec le titre pour Sangolé Kandji. A noter que la Béninoise Odile Awamanou conserve son titre en étape plomb, tout comme le Burkinabé Hugues Fabrice Zango en triple saut avec une marque de 17,34 m. Au tableau des médailles, le Kenya arrive en tête devant l'Afrique du Sud. Le Nigeria complète le podium.
Cyclisme pour terminer avec l'épilogue du Tour du Cameroun.
Et c'est le Rwandais Moïse Mugisha qui s'impose à l'issue d'une huitième et dernière étape remportée par le Marocain Edil El Arbaoui. âgé de 24 ans. Mugisha devance de 32 secondes le Bulgare Yordan Andriev et de 33 le Camerounais Atus Jodele Tela.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, on connaît les deux principaux adversaires dans la course à la présidence, Atiku Abubakar et Bola Ahmed Tinubu. Que pensent les Nigérians de ces deux candidats et de ce qui sera déterminant pour la présidentielle de février prochain? Un reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Beaucoup estiment que ça sera un combat de titans entre deux anciens alliés politiques et deux amis. Le puissant ancien gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu, et Atiku Abubakar, ancien vice-président, sont deux vétérans de la politique au Nigeria. Tinubu est devenu le porte-drapeau du All Progressives Congress, APC, le parti au pouvoir, et Atiku va défendre les couleurs du People's Democratic Party, le PDP, principal parti d'opposition. Ils ont en commun des structures politiques très fortes et bien implantées dans le pays. Ils postulent tous les deux pour le même poste et enfin, ils sont tous les deux très riches et n'auront pas peur de mettre la main à la poche, comme ils l'ont déjà prouvé pendant les primaires de leurs partis respectifs. Pour Hamza Laval, un jeune activiste, il est encore tôt pour trancher.
Je pense qu'il est encore très tôt de faire n'importe quelle projection en ce moment. C'est encore tôt parce que notre réalité est que la politique d'achat de conscience joue un grand rôle. Le fait que les pauvres et les plus vulnérables seront faciles à persuader avec de l'argent, pas par un débat public pour le respect des promesses de campagne au profit des populations.
Les deux hommes se connaissent bien et depuis fort longtemps. Ils ont travaillé ensemble au sein du défunt parti politique Action Congress du Nigeria, ou ACN, avant les élections de 2011, lorsque Atiku Abubakar a quitté le PDP pour rejoindre cette formation. Atiku, candidat du PDP, est un musulman originaire de l'état de l'Adamawa dans le nord-est. Tinubu, candidat de l'APC, est aussi musulman, originaire de l'état de Lagos, dans le sud-ouest. Les réactions de certains Nigérians.
Je pense que nous avons beaucoup de jeunes dans le pays pour faire le travail. Le monde est en train de changer avec la technologie. Je pense qu'il faut donner la chance aux plus jeunes pour gérer les affaires de ce pays. Oui, je sais que Tinubu est originaire du sud-ouest, mais cette fois-ci, je pense, et comme beaucoup d'autres, nous avons besoin de quelqu'un plus jeune.
Atiku a 75 ans et Tinubu 70. Ils sont tous les deux des poids lourds présents sur la scène politique nigériane depuis plus de trois décennies. Mais notre candidat pourrait être un défi pour ces deux qui sont présentés comme les favoris. Peter Obi, ancien gouverneur de l'état d'Anambra et candidat d'un petit parti d'opposition, le Parti Travailliste, est montré sur de nombreuses plateformes des médias sociaux comme un futur trouble fête. Sam Amadi est analyste politique.
Je pense que Peter Obi est déterminé à rassembler tous les Nigérians en colère. Ils sont très nombreux sur Twitter. Ils sont aussi tous déterminés à aller voter l'année prochaine. Il aura une très bonne percée s'il travaille beaucoup. Mais la dynamique de la politique nigériane n'est pas seulement des idées ou de la crédibilité. C'est aussi ethnocentrique, des sentiments ethno-religieux et une partie de la population qui n'est pas éduquée.
Comme une élection n'est jamais gagnée d'avance, le chemin sera long jusqu'en février 2023. Quoi qu'il arrive, le futur successeur de Muhammadu Buhari aura beaucoup de pain sur la planche. Gilbert Tamba Abuja pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les élèves s'impliquent dans la sensibilisation sur les dangers liés à l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux par les jeunes scolarisés. Depuis l'an dernier, plusieurs élèves de différentes villes du pays ont été interpellés par la police et la gendarmerie pour déviance sexuelle, proxénétisme et appartenance à une secte. Sous l'égide d'une ONG locale, d'autres élèves battent campagne sur certains méfaits de réseaux sociaux. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
De sources policières et judiciaires, les réseaux sociaux ont toujours été le canal par lequel les jeunes scolarisés constituent des groupes de déviance sexuelle au Cameroun. Steve Samuel Nkot, secrétaire exécutif de la Fondation d'éducation by Flomic, qui lutte contre l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux,
en milieu scolaire.
Si les enfants aujourd'hui ont accès facilement aux réseaux sociaux et à des groupes pernicieux, c'est aussi parce qu'il y a un laisser-aller au niveau parental. Donc nous sensibilisons également les parents, notamment à l'occasion des réunions parentales qui se tiennent dans les établissements scolaires, à mieux suivre leurs enfants.
En mars dernier, la police a démantelé un réseau d'une dizaine d'élèves mineurs adeptes de pratiques sexuelles déviantes dans un lycée en banlieue de Yaoundé. Grâce à l'ONG Fondation d'éducation d'espérance, des clubs jeunesse scolaire responsables ont été créés dans plusieurs établissements scolaires pour alerter sur l'ampleur du mal. Megan Ngassa est élève en classe de terminale. Elle fait partie de ce club au lycée de Ngousso à Yaoundé.
Généralement, j'ai toujours tendance à utiliser WhatsApp pour parler aux jeunes. En fait, que non, on utilise Internet pour faire réellement des recherches, pas pour faire des bêtises en fait. On peut donner un exposé. J'utilise Internet pour me procurer les informations dont j'ai besoin.
Le jeune Enan Zoua est aussi père éducateur au club jeunesse scolaire responsable de son établissement.
Avec cette fondation, nous organisons souvent des meetings au sein de l'établissement pour parler ensemble avec des élèves. Nous allons souvent dans les rues et en sensibilisant.
C'est depuis 3 ans que l'ONG Fondation d'éducation d'espérance s'est engagée dans la lutte contre les déviances qui minent la jeunesse au Cameroun. Manuela Ingodo, responsable de la communication de la dite fondation.
Nous sommes dans toutes les cités où les enfants peuvent se trouver pour porter très haut le message. Il faudrait qu'on protège ces enfants-là. C'est quoi notre cible? C'est la jeunesse scolarisée. Parce qu'on suppose qu'ils sont encore récupérables. C'est pourquoi il y a des prises en charge pour des enfants détectés à problème. Parce qu'il y en a qui ne veulent plus faire l'école. Il y a des formations professionnelles qu'on offre à ces enfants en fonction de leurs aptitudes.
Les pouvoirs publics, pour leur part, appellent à une mobilisation générale pour sortir les jeunes scolarisés du piège des réseaux sociaux. Irène Guélin, ministre des Affaires sociales.
La famille d'abord, parce que c'est la cellule de base de la société où on marche les mentalités et les coutumes qui favorisent cette place.
En avril dernier, au moins 30 élèves du lycée bilingue de Kribi, une cité balnéaire dans le sud du Cameroun, ont été traînés en justice pour pornographie et prosélytisme. Ils tournaient des vidéos débats sexuels qu'ils revendaient sur les réseaux sociaux. Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Bénin, les nuisances sonores viennent en tête des infractions recensées par les services compétents 20 ans après l'entrée en vigueur du décret du 8 août 2001 sur la réglementation du bruit. Le gouvernement a décidé de le réactualiser et de passer à la phase active de la lutte contre la pollution sonore. Il y a déjà des arrestations et de nombreux équipements saisis. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
6 disc-jockeys ou DJ, un pasteur ont été arrêtés pour nuisance sonore et attendent d'être présentés au procureur. Ces derniers mois, plus de 6000 plaintes ont été reçues par la police municipale. De nombreuses activités génératrices de pollution sonore sont menées souvent en pleine agglomération, sans autorisation préalable et sans aucune précaution pour réduire les nuisances qu'elles génèrent. Les premiers sur la liste sont les promoteurs des bars et autres lieux ambianceurs dits de détente. Les populations s'en plaignent.
Ailleurs, lorsque les gens ouvrent des boîtes de nuit, c'est les boîtes de nuit totalement fermée et le bruit reste à l'intérieur dans l'enceinte. Ici, rien n'est régulé. On devrait demander à ces promoteurs-là d'avoir un cadre approprié.
Parmi les milliers de plaintes déposées par des Béninois, la majorité touche des églises nouvelles installées un peu partout dans le pays. Certaines d'entre elles, prétendument au nom de Jésus, font un vacarme à longueur de journée au grand désarroi des habitants voisins. Ils en parlent.
On dérange de matin au soir. Je pense l'église de 8h jusqu'à à 14h, à 14h, c'est pas au repos. Donc, il vient encore à 20h. De 20h jusqu'à 5h du matin.
Dieu, il n'est pas fou. Dieu, c'est quelqu'un qui est calme, qui est tranquille. Et il aime là où il y a le calme, qu'on puisse l'adorer. C'est mon point de vue.
Pour Anou Sabo, environnementaliste de formation, les conséquences de la pollution sonore sont énormes et il est important d'y mettre fin dès maintenant que d'en arriver plus tard à des dégâts irréparables.
Là où il y a bruit, il n'y a plus une bonne humeur. Il y a de l'émotion, on ne se contrôle presque plus, on n'est plus à l'aise, on n'a plus sa faculté au top pour mieux réfléchir. Tout ça met mal à l'aise. possible. Donc il y a des décibels que l'organisme ne supporte plus au-delà d'une certaine quantité. C'est pour cela qu'on est obligé de parler de pollution sonore.
Devant toutes ces plaintes des citoyens, le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités et les agents de la police sont prêts à assainir le milieu pour la quiétude des habitants. Marc D'Acosta est le directeur général de la police municipale.
Les promoteurs des débits de boissons, restaurants, dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil prévu à l'article 17 du présent décret, insonorisent leurs locaux. L'usage de haut-parleurs à l'extérieur des locaux est interdit. Il faut commencer à sanctionner. C'est ce que les populations, je pense, attendent du gouvernement.
Moi, je voudrais rassurer les populations de la disponibilité et des fonctionnaires de la police républicaine à accompagner la mise en application et le respect des dispositions du présent décret.
De même, l'usage de tout appareil de communication par voie acoustique gênant pour le voisinage est interdit, sauf si l'emploi est exceptionnel et réservé au signalement d'accidents ou d'incidents graves. Enfin, il est prévu qu'une dérogation spéciale puisse être accordée par le maire pour l'usage des appareils sonores pour des manifestations exceptionnelles dans les lieux publics, mais pour laquelle l'intensité du bruit ne saurait excéder 80 décibels et la durée 48 heures. De Cotonou, c'est Natura Dandé pour VOA Afrique.
Et au Togo également, les autorités haussent le ton face aux nuisances sonores dans les lieux de culte. Après de multiples rappels à l'ordre au président des organisations religieuses, le ministère de l'administration territoriale passe à la phase de la répression et la décision fait débat dans le pays. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosso.
Dans une lettre adressée au président des organisations et fédérations religieuses, le directeur des cultes au ministère de l'administration territoriale fait savoir qu'il ne saurait tolérer plus longtemps les écarts et les tapages qui empoisonnent la vie et la tranquillité des riverains. Désormais, tout dépassement du seuil des 55 décibels conduira à la saisie des instruments de sonorisation et à la fermeture immédiate du lieu de culte incriminé. Francis Aguenou, la quarantaine, riverain d'une église implantée dans la localité d'Agbavi, dans la banlieue de Lomé, pousse un ouf de soulagement.
Il était temps que ces fatigues s'arrêtent. Franchement, j'épouse à 100% la décision du gouvernement. Je suis chrétien aussi, mais je crois que certains d'entre nous exagèrent un peu. Tu reviens du boulot, impossible de te reposer ou dormir. Quand tu te plains, ils te traitent de démon.
Torga, jeune enseignant dans un établissement de la capitale, estime que le gouvernement fait fausse route et stigmatise trop les églises car, selon lui, d'autres endroits font du tapage de jour comme de nuit sans jamais être inquiétés.
Au vu de ce qui se passe dans les villes du Togo, je ne pense pas que c'est le côté église qu'il faut regarder. Nous avons les bars qui font du bruit, qui jouent de la musique du matin jusqu'au soir. On ne regarde pas ce côté, mais tous les jours, c'est l'église en regarde. Et je ne pense pas que nous faisons trop de bruit. Chaque église a ses critères d'adoration. Je prierai au gouvernement de revoir cette décision car elle n'est pas la bienvenue.
L'ONG Veille Citoyenne, qui a publié au mois de mars dernier une tribune sur le sujet, exhorte le gouvernement à encadrer l'exercice des libertés religieuses par une loi. Pidenam Sama, président de Veille Citoyenne.
C'est vrai que la Constitution garantit la liberté de religion dans notre pays. Mais la liberté de culte et de religion s'arrête là où commence le droit à la tranquillité des autres citoyens. Mais il n'y a pas encore une loi qui réglemente le secteur. Et dans notre tribune, nous avons exhorté les autorités togolaises à accélérer le projet de loi dont la rédaction a déjà commencé depuis 2017 pour que ce secteur-là puisse être réglementé.
En attendant que cet appel se traduise dans les faits, le ministre de l'administration territoriale vient de demander à tous les préfets de ne plus autoriser l'implantation des églises dans leur ressort territorial jusqu'à nouvel ordre. Kossi Wosso, Lomé pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gaïma, et à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.